Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Van Lutumba.
Notre pays est en danger, aucune nation ne peut se construire dans le mépris des valeurs morales. Affirmation en tout cas pas de Radio Okapi, mais des évêques de la conférence épiscopale du Congo dans un message de ce jeudi. Nous ouvrons ce journal par un résumé de cette adresse des chefs catholiques en rapport avec le processus électoral de décembre dernier en RDC. Nous parlerons environnement et forêt dans cette édition avec les états généraux des forêts qu'organise du 18 au 22 janvier le ministère de l'environnement. Amélioration de la gouvernance forestière, booster la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale, c'est parmi autant d'objectifs attendus de ces assises. Le 20 janvier restera marqué dans l'histoire politique de la RDC. C'est le jour de l'investiture du président de la République réélu, Félix Tshisekedi. Dans ce journal, nous vous présentons le point sur l'avancement des préparatifs de cette cérémonie qui se tiendra au stade des martyrs avec Giscard Koussema qui est invité de ce journal. Aimable auditeur, c'est maintenant le moment de découvrir d'autres nouvelles qui font l'actualité ce jeudi sur Radio Kapi. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Ce verset tiré du psaume 101, verset 7, est l'intitulé du message des évêques de la conférence épiscopale du Congo, publié ce jeudi à l'issue du processus électoral. Après avoir passé en revue les irrégularités qui ont été enregistrées lors des élections, notamment par la mission d'observation CENCO-SCC, les évêques catholiques affirment, je cite, « Notre pays est en danger, aucune nation ne peut se construire dans le mépris des valeurs morales », fin de citation. Ils en appellent ainsi une fois de plus aux instances compétentes ayant mission de veiller à la stabilité, à la justice et à la cohésion nationale d'user de la sagesse et de l'intelligence pour bâtir un Congo nouveau dans l'unité et dans la paix. D'autres détails de ce communiqué avec vous, Alain Hirong.
Dans ce message, la CENCO recommande au président de la République d'être le garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Nous lui apporterons notre contribution susceptible de l'aider à réussir ses deuxième et dernier mandats pour l'intérêt du peuple congolais, disent-ils. Au gouvernement, les évêques demandent de prendre des mesures nécessaires et urgentes pour décourager la xénophobie et les élans de tribalisme notés dans les discours tout au long de la campagne électorale et de mettre en place un mécanisme politique pour renforcer la cohésion nationale. Aux cours et tribunaux, les pères de l'Église recommandent de se saisir d'office de toutes les dénonciations pour invalider les fraudeurs connus qui ont été proclamés provisoirement comme élus, de traiter les dossiers relatifs aux recours et contentieux électoraux sans complaisance, d'être au service de la justice et non des individus. Enfin, ils appellent le peuple congolais de vivre ensemble dans la solidarité et la cohésion nationale afin que la RDC ne sombre pas dans la violence et les divisions.
Merci bien Alain Hirong. L'opposition politique congolaise continue à exiger l'annulation des élections du 20 décembre dernier. C'est ce que l'on peut retenir de la conférence conjointe tenue en ligne ce jeudi par Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Floribert Anzuluni. Selon Moïse Katumbi, ces scrutins devront être annulés pour plusieurs raisons, entre autres le manque de compilation des résultats des votes. Moïse Katumbi est au micro de Paul Matendo.
Nous, on a eu la chance de parler à cette population congolaise pendant notre campagne, mais les autres ont parlé à des machines. Il y a une très grande différence, il faut faire la part des choses. Nous avons parlé, nous avons écouté, nous avions vu les larmes de notre population, mais ils ont parlé à des machines à tri que nous, on n'a pas eu de PV. Il n'y avait pas de PV, il n'y avait pas eu de compilation, nous l'avons répété plusieurs fois, peut-être il est arrivé en retard. Pourquoi nous avons demandé qu'on annule ces élections? Parce que personne aujourd'hui n'a un PV, même d'un bureau de vote. Nous, on n'a pas compilé le résultat pendant 7 jours. Comment est-ce que vous pouvez compiler le résultat pendant 7 jours avec des gens qui détenaient des machines à tricher dans leur maison?
La ville de Kinshasa accueille du 18 au 22 janvier les états généraux des forêts. À l'initiative du ministère de l'Environnement, ces travaux se proposent d'améliorer la gouvernance forestière et d'accroître la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale. Avec l'appui des partenaires dont le programme de gestion durable des forêts et le Fonds forestier national, ces états généraux veulent également lutter contre la pauvreté et les effets néfastes du changement climatique. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Placé sous le thème « Les forêts de la RDC, nouvelle locomotive de son développement durable et de l'équilibre planétaire », ces assises visent à faire les diagnostics des forêts congolaises et analyser les voies et moyens de relance de l'économie forestière. Elles veulent également restructurer et renforcer les interactions entre l'administration publique en charge des forêts au niveau national ainsi qu'au niveau des provinces, territoires et secteurs. Dans son allocution, la ministre d'État en charge de l'environnement a fait savoir que les forêts congolaises font face à des redoutables défis dont l'exploitation informelle. Eve Bazaïba.
Actuellement, les forêts sont rarement gérées de manière durable, de sorte que la déforestation et la dégradation des forestières sont accentuées. Ceci fait que les forêts de notre pays sont loin d'avoir réalisé leur potentiel de contribution au développement national, y compris leur promesse d'une forte réduction de la pauvreté.
5 jours durant, près de 200 délégués, dont les représentants de la présidence de la République, du Parlement, de la primature, des cabinets politiques ainsi que des acteurs de la société civile, s'est livré à une réflexion en profondeur en vue de formuler des recommandations pertinentes pour une gestion durable du secteur forestier ainsi que pour sa valorisation.
Dans la province du Maniema, la société minière Punya KCC Mining et PKM vient de signer un cahier des charges avec les communautés de Punya et Lubutu impactées par ces projets. Avant cette signature, les travaux d'élaboration du dit cahier des charges ont été conduits par le ministre provincial des Mines en présence des représentants des communautés locales et de développement. Dans les 5 ans, la société se fixe comme objectif, entre autres, de réaliser quelques activités de développement dans la construction de certaines infrastructures. Geste salué par la population, comme nous le dit Florence Kizalunga.
C'était du 11 au 16 janvier que ces travaux d'élaboration de ces cahiers des charges ont été tenus dans la grande salle de l'Institut Mbengu. Les contenus de ces cahiers des charges avec Maître Eloy Boudiboulia, le facilitateur.
La société PKM a pris l'engagement de réaliser des infrastructures sanitaires, scolaires, routières, mais aussi les actions de développement économique et même l'agriculture. Sur le plan culturel aussi, on a pensé qu'il faudrait s'occuper de la jeunesse et de la femme.
Prenant part à ces assises, la société civile salue cette volonté de la société PKM. Jean-Claude Ngoï.
Nous, la société civile, nous sommes très contents car depuis que plusieurs sociétés sont venues à Pougne exploiter chez nous, qui n'a jamais parlé du cahier des charges par rapport à la communauté. Mais aujourd'hui, avec cette société PKM, avant même de commencer l'exploitation, ils ont songé directement à la signature du cahier des charges.
Le ministre provincial des Mines est satisfait, appelle au respect du code minier révisé. John Darabou fait savoir que toute société ayant déjà bénéficié d'un permis d'exploitation a l'obligation d'élaborer un cahier des charges avec la communauté. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Province du Tanganyika, à présent, les détenus de la prison centrale de Kongolo vivent dans des conditions difficiles. Constat fait ce mercredi par l'évêque du diocèse de Kongolo qui a visité cette maison carcérale. L'évêque lance un SOS pour venir en aide aux détenus. La plupart d'entre eux sont incarcérés depuis longtemps sans être jugés et demandent leur libération, indique une source à la prison. Le point avec Paulin Munanga.
L'évêque du diocèse de Kongolo a apporté de la nourriture aux détenus. Oscar Ngoyiwampanga s'est rendu compte de l'état de la prison centrale de Kongolo. Il fait un constat amer et lance un appel à toute personne de bonne volonté de venir en aide aux détenus. Les détenus n'ont pas d'eau pour se laver ni d'eau potable. Ils n'ont pas de toilettes et la prison a besoin d'une réhabilitation. Je demande aux habitants de Kongolo qui ont la bonne volonté d'aider les prisonniers en leur apportant de la nourriture, de l'eau potable, du savon et des habits. Les églises devraient aussi faire de même. Des sources sur place rapportent que cette prison compte actuellement 54 détenus, dont une femme et 3 mineurs. Ils dorment à même le sol. Ils se servent de l'eau sale d'un puits de fortune qui se trouve juste à côté de la prison. Les mêmes sources signalent qu'une dizaine de détenus souffrent de la diarrhée et d'autres maladies, mais la prison n'a pas de dispensaire ni de médecin. Construite en 1938 avec une capacité d'accueil d'une centaine de personnes, la prison centrale de Kongolo a été réhabilitée pour la toute première fois en 2014 par la MONUSCO, annonce des sources à Kongolo. Kalemi, Polemunanga, Radio Okapi.
Dans le Nord Kivu, une cinquantaine de leaders des communautés ethniques s'engagent entre autres à contribuer au processus de paix et à promouvoir des moyens pacifiques de résolution des conflits interethniques. Ils ont signé mercredi 17 janvier à Goma un acte d'engagement à l'issue d'un atelier de 2 jours. L'atelier de consultation initié par le Barza intercommunautaire avec l'appui de la MONUSCO portait sur la citoyenneté responsable. Bernadette Nyangui.
Le débat a été houleux dans cet atelier qui a réuni 55 leaders issus des communautés ethniques du Nord Kivu et celles d'autres provinces. À l'issue des échanges, ces leaders ont dégagé une liste de 19 défis à la paix et à la cohabitation pacifique dans la province, dont l'activisme des dizaines de groupes armés. Comme proposition des solutions, ces leaders ont pris un ensemble de cet engagement. C'est comme le dit ici Stéphane Lupao, secrétaire rapporteur du Barça intercommunautaire.
Nous réitérons ce qui suit. Promouvoir une bonne cohabitation entre nous tout en recourant aux moyens pacifique de résolution des conflits dont les dialogues. Plaider auprès des institutions étatiques pour qu'elles jouent correctement ces rôles. Promouvoir des stratégies appropriées de lutte contre les discours de haine, la désinformation, la rumeur et la méfiance.
Soulignons que pendant les deux jours, ces leaders communautaires ont été outillés sur le processus PDDRCS et la cartographie des groupes armés, ainsi que sur la situation humanitaire et la citoyenneté responsable, entre autres. Cet atelier cadre avec la transition de la MONUSCO en cours. Goma, Bernard Dengangi, Radio Okapi.
Dans le Kasaï oriental, 20 femmes leaders ont participé ce mercredi à une séance des restitutions sur le programme Paix, Sécurité et Autonomisation de la Femme. Cet échange professionnel a été effectué dans la salle Mpoyingongo par quelques femmes du Grand Kasaï revenues l'année dernière des États-Unis d'Amérique. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les femmes à se professionnaliser dans les domaines de leurs activités et de travailler en synergie pour l'intérêt de la communauté en général et de la femme en particulier. Une participante, Ruth Biachini, directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias, section du Kasaï oriental, s'exprime au micro d'Esterne Dalafina.
La restitution était très importante, surtout que nous sommes au début de l'année. Ça nous a permis d'avoir déjà une idée générale sur ce qui peut être pour nous l'année 2024 avec ce que nous avons vécu en 2023 comme c'était une année électorale. Et ça nous a permis de mettre en place certaines stratégies, de repenser comment nous pourrons encore relancer vraiment la situation de la femme ici au Kasaï oriental. Également de repenser à la stratégie à mettre en place pour pouvoir travailler en synergie. La restitution a permis à ce que les femmes revoient, n'est-ce pas, leur façon de travailler et qu'elles puissent mobiliser assez de partenaires pour pouvoir accompagner la cause de la femme ici au Kasaï oriental. Nous avons travaillé d'abord, comme on peut dire, en ordre dispersé et il fallait qu'à partir d'aujourd'hui, que chacune revoie les compétences qui sont siennes et qu'elle puisse les apporter pour, n'est-ce pas, l'avancement de la cause de la femme au Kasaï oriental. Donc chacune doit vraiment apporter sa pierre à l'édifice pour que la cause de la femme soit vraiment tenue haute ici dans notre province.
Avant de passer à la page internationale de ce journal, à Ituri, la société civile du territoire de Djougou demande au gouvernement central de restaurer l'autorité de l'État et d'accélérer le programme de DDRCS dans cette entité. Ces recommandations ont été adressées mercredi à une délégation de la MONUSCO au cours d'une réunion d'évaluation de ses actions à Fataki. Cela en prévision du retrait de la mission onusienne qui assure la protection directe des plus de 700 000 déplacés de guerre. Ezekiel Mouzalia.
La situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans plusieurs entités du territoire des Djougou. C'est le constat fait par plusieurs habitants, dont des déplacés internes, des leaders communautaires et autorités coutumières. Au cours d'une rencontre tenue mercredi à Fataki Centre, ces notables saluent la réalisation de plusieurs actions de la MONUSCO pour appuyer les gouvernements dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État et la stabilisation. Ils citent notamment l'organisation des patrouilles diurnes et nocturnes, la construction des ponts, ainsi que des opérations militaires conjointes avec les FARDC contre les groupes armés dans le territoire des Djougou. Jules Tsuba, président de la société civile du territoire.
Nous avons encore besoin de MONUSCO dans d'autres lieux où MONUSCO n'a pas été très apprécié par des politiciens qui ont impliqué dans la tête de la population que MONUSCO est mauvaise. Non, ça ce n'est pas notre avis. Nous avons MONUSCO qui a protégé la population à Loda, protégé la population de Djaïba, Jina, à Drodo vers le centre de Broua. Il y a plusieurs milliers de populations que la MONUSCO a protégées. L'installation de la paix n'est pas encore installé à Djougou.
Ces habitants demandent au gouvernement d'accélérer le programme de démobilisation pour la cessation définitive des hostilités afin de permettre le retour des déplacés dans leur milieu d'origine en cette période de transition de la MONUSCO. Des retours des Fataki, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dans un climat de tension croissante, le leader de l'opposition ougandaise Bobi Wine a annoncé jeudi être placé en résidence surveillée par les forces de l'ordre qui ont encerclé sa résidence à Magere. Cette mesure préventive intervient avant une manifestation projetée par les politiciens de l'opposition visant à dénoncer le piètre état des routes en Ouganda, pays hôte des deux sommets mondiaux ce mois-ci. Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, a relayé l'information sur ses comptes officiels des médias sociaux dénonçant l'action des forces de sécurité. Malgré son assignation en résidence, il a appelé ses partisans à maintenir la manifestation, clamant « Réparer nos routes, libérer les prisonniers politiques, libérer l'Ouganda ». La brouille diplomatique entre la Somalie et l'Éthiopie s'exacerbe. Le gouvernement somalien exclut jeudi toute médiation avec l'Éthiopie tant que cette dernière n'aura pas annulé le mémorandum d'entente conclu au début du mois avec le Somaliland. Mogadiscio, qui dénonce une violation de sa souveraineté territoriale, multiplie les actions pour faire annuler cet accord qui permet à l'Éthiopie de louer 20 km des côtes du Somaliland pour 50 ans. Mercredi, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait appelé les deux pays à la retenue lors d'une réunion consacrée à ce dossier.
L'invité.
J-2 avant la cérémonie d'investiture du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, nouvellement élu. Dans ce journal, nous recevons Giscard Koussema, directeur de communication adjoint à la présidence de la République. Dans cet entretien accordé à Cynthia Bachizi, il fait le point sur les préparatifs de cette cérémonie d'investiture qui va marquer la fin du processus électoral pour la présidentielle. Suivez.
Giscard Koussema, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, où en est-on avec les préparatifs de la cérémonie de l'investiture du chef de l'État?
Écoutez, nous sommes sur la dernière ligne droite pour la tenue de ce grand événement. Comme vous le savez, la cérémonie d'investiture du président de la République est la dernière étape qui va marquer d'une part la fin du processus électoral et d'autre part les débuts du nouveau mandat de 5 ans. L'investiture est prévue ce samedi 20 janvier au stade des Martyrs de Kinshasa. Dans la pratique, le président de la République réuni va prêter serment devant les juges de la Cour constitutionnelle réunis au grand complet. Une tribune est déjà érigée au centre du stade des Martyrs sur l'aire de jeu, de manière à permettre à tous les spectateurs qui seront au stade de voir ces moments solennels. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, recevra les symboles du pouvoir politique et traditionnel du président de la Cour constitutionnelle avant de prononcer son discours d'investiture qui est un grand oral de politique générale de son quinquennat.
Dites-nous, Giscard Koussema, pourquoi cette fois-ci cette investiture est organisée au stade des Martyrs?
La symbolique du stade, c'est parce que d'abord, il s'agit d'un moment de consécration. Le président de la République qui a reçu le mandat de sa population veut partager ce moment avec lui, d'autant plus que cela s'est passé dans un contexte pacifique de couronnement de notre démocratie. Donc la cérémonie d'investiture est un moment solennel de communion du président de la République qui est le symbole de l'unité de la nation avec sa population. Voilà pourquoi les portes du stade sont donc ouvertes au public et dès les premières heures, à 5 heures déjà, les stades sera ouvert et le public pourrait entrer.
Il n'y a aucun enregistrement au préalable qui est demandé, donc toute personne est libre d'arriver au stade.
En tout cas, sauf les prestataires que sont les journalistes et les autres corps de métier, mais toutes les autres personnes, les 80 000 places sont libres, l'accès est libre. Vous entrez au stade, vous allez vous asseoir à la place qui est de votre choix, sauf qu'évidemment, comme je le dis, il y a une tribune réservée aux invités, aux chefs de corps. Ceux-là, ils ont besoin d'invitation, mais pour tous les autres, l'accès est libre dès les premières heures de la journée. En ce qui concerne la presse, même s'il y a un processus d'accréditation, mais nous voulons préciser ici que cela va se faire suivant les mêmes protocoles utilisés lorsqu'il y a un match de football. Donc, quand il y a match de football, on ne voit pas dans l'aire des jeux de journalistes au centre de l'événement. Donc, ils peuvent faire leur reportage à partir de gradins ou ceux qui auront des rôles spécifiques seront dans des zones bien dédiées. Nous voulons confirmer ici que toutes les dispositions sécuritaires ont été effectivement prises pour sécuriser les accès, pour sécuriser les invités, les chefs d'État et même la population. Je dis ici qu'il y a on a tracé des entrées piétonnes pour permettre à toute la population, de rester ici au stade des martyrs et de suivre cet événement en toute sécurité et tranquillité.
Jusqu'à Kousema, événement exceptionnel, invité exceptionnel, quels sont donc les invités de marque?
Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont manifesté leur volonté de participer à cette cérémonie.
On peut avoir
ce
des
matin,
noms
nous
déjà.
Ce matin, nous ne sommes pas en mesure de vous donner un chiffre précis.
Peut-on avoir déjà quelques noms? On sait que les États-Unis ont déjà communiqué là-dessus avec le président Biden qui va dépêcher une grande délégation. Est-ce qu'on peut avoir déjà quelques noms?
Écoutez, comme nous l'avons dit tantôt, nous n'allons pas léser, nous n'allons pas nous défaire des pratiques diplomatiques. Cela passe par de voies diplomatiques à travers des notes verbales, mais la confirmation, c'est celle que nous vous donnons. Plusieurs chefs d'État africains, des chefs de gouvernement, des représentants des hauts rangs venus d'Amérique, d'Afrique et d'Asie seront à Kinshasa. C'est ce qui importe. Nous aurons le temps de citer leurs noms et vous allez le voir également sur place parce qu'il y a Adnan qui commence déjà à arriver.
Jusqu'à Kousema, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
À notre tour aussi, fidèles auditeurs, de vous dire merci d'avoir suivi ce journal préparé par Alain Hiron, Galizé Chikota, Martin Sebujangwe, l'ensemble de toute la rédaction. Dieudonné Nyangasa a assuré la prise de son et la mise en onde et Billy Van Lotumba vous la présentait.